Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes en direct jusqu'à 13h. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat d'actualité ce samedi. Âge pivot, âge légal, âge d'équilibre, 64 ans, hockey boomer. T'es né avant ou après 1975? Voilà des mots, des expressions qu'on entend depuis quelques jours, quelques semaines. Mais que dit la réforme des retraites prévues par le gouvernement? Des âges de la vie, de la solidarité entre les générations. Nous en parlerons avec un philosophe qui est spécialiste du sujet, Pierre-Henri Tavoyot. Il est maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne Paris 4. Il est le président du collège de philosophie et l'auteur de Comment gouverner un peuple roi. Nous en parlerons donc avec lui dans une vingtaine de minutes. Pierre-Henri Tavoyot nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on démarre avec le duel, la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein sont à mes côtés. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver avant de revenir en France et de nous intéresser au mouvement social et au conflit qui se joue autour de la réforme des retraites. Un détour par la perfide Albion.
C'est un nouveau mandat pour le gouvernement conservateur, un mandat puissant, pas seulement pour finir le Brexit, mais aussi pour réunifier ce pays et le faire avancer. Nous allons nous concentrer sur les priorités des Britanniques et avant tout sur le système de santé. Et oui, nous allons recruter 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins et nous allons construire 40 nouveaux hôpitaux.
Boris Johnson, Bojo, Premier ministre triomphant et donc reconduit, qui s'exprimait devant le 10 Downing Street à Londres après sa large victoire aux élections générales. Intéressante situation, vous teniez à y revenir l'un et l'autre. Comment analyser ça, Natacha? Est-ce que c'est au fond une sorte de deuxième vote des Britanniques pour le Brexit qui s'est exprimé?
Alors, il ne faut jamais s'emballer trop, il faut regarder le mode de scrutin. Donc, si on rentre dans les détails, on peut considérer que dans la mesure où c'est un scrutin uninominal à un tour, c'est le premier qui l'emporte, même si le second ou le deuxième est juste derrière. Donc, voilà, on peut toujours arguer de ce genre de choses. Pour autant, premier constat, il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, les commentateurs en France expliquaient que Boris Johnson s'était pris claque sur claque, qu'il était fini, que évidemment la machine parlementaire lui avait montré à quel point sa stratégie était mauvaise.
Quand vous parlez des commentateurs, vous parlez de Gilles ?
Non.
Je le dis en plaisantant.
Non, mais pourquoi? Pas du tout. Non, c'est simplement le bruit qu'on entendait en France. Et c'est assez frappant de constater que en fait, Boris Johnson n'est pas du tout le clown qu'on nous présente, qu'il a depuis longtemps cette stratégie extrêmement pensée qui aboutit aujourd'hui à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Alors pourquoi l'obtient-il? D'abord parce que, contrairement là aussi à ce qui est un peu facilement prétendu par certains commentateurs qui ont tendance, et c'est souvent le cas,
mais
à prendre leur désir pour des réalités...
Mais qui sont ces certains commentateurs, Natacha?
Vous écoutez de temps en temps les commentaires sur les chaînes d'infos, sur les voilà les tous les voyez cette musique des éditorialistes qui disent en gros il faut revoter, le peuple britannique ne veut plus du Brexit. Bah en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus compliqué que ça.
Gilles Finkelstein.
Ce bruit qu'évoque Natacha correspondait pour partie aussi à une réalité. La législature qui s'est terminée a été un cauchemar pour les conservateurs. Et d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire que c'est moins les conservateurs qui ont gagné cette élection que les travaillistes qui l'ont perdue. Boris Johnson réalise un score...
C'est une drôle de manière de voir les choses. C'est quand même une victoire écrasante et qui est la première de cette ampleur depuis des décennies, Gilles.
Mais évidemment, c'est une victoire écrasante. Il n'en demeure pas moins que Boris Johnson fait le même pourcentage de voix à epsilon près que Theresa May dans l'élection précédente. Donc c'est d'abord un triomphe en raison de l'affaissement des travaillistes. Quatrième défaite de suite pour les travaillistes, un de leurs pires scores depuis 1935, alors même qu'on sort d'une législature qui a été un cauchemar. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, et je crois qu'il y a deux explications principales. La première, c'est que les travaillistes ont perdu, et ont perdu nettement, la bataille du leadership. La défaite des travaillistes, elle tient en deux mots, Jeremy Corbyn. Il y a eu un sondage qui a été fait auprès
du leader du Parti travailliste.
Auprès de 100 000 Britanniques juste avant l'élection. Et donc, quand on croisait toutes les catégories, toutes les sympathies partisanes, tous les pros et les anti-Brexit, quelle était la principale faiblesse du Parti travailliste, c'était Jeremy Corbyn. Donc la première défaite, c'est ça, et même dans un régime...
Il quitte le leadership du Parti travailliste, juste pour la précision, lui-même ayant été réélu malgré tout.
Oui. Donc, même dans un régime parlementaire, le leadership, c'est très important. Mais il y a une deuxième explication, c'est que les travaillistes ont perdu la bataille de l'agenda. Dans toute élection, il y a une question stratégique qui est de savoir sur quel terrain va se faire la bataille électorale. Vous avez un certain nombre d'élections dans lesquelles on n'a pas le choix. C'est un peu, pour utiliser une image de patinage artistique, des figures imposées. Et puis vous avez des campagnes dans lesquelles ce sont des figures libres. Chacun essaye d'amener la campagne sur son terrain. Et ça a été exactement le cas de cette élection, et c'est ça qui est intéressant. Les conservateurs ont dit il y a un sujet, le Brexit. Les travaillistes disaient il y a un sujet, les questions, le système de santé. Eh bien, au bout du bout, c'est le sujet que les Britanniques ont considéré comme étant le sujet
central. Le système de santé.
C'était le Brexit, et c'est grâce à ça que les conservateurs ont gagné, parce que sur ce sujet-là, ils avaient une position claire et les travaillistes avaient une position qui était une position ambiguë.
Natacha.
Alors, là où je suis d'accord, c'est en effet sur le fait que Jeremy Corbyn a échoué à imposer une vision claire, à donner l'impression qu'il avait un véritable projet face à celui de Boris Johnson. On peut ajouter aussi une question sociologique. Quand on regarde la carte d'Angleterre, on s'aperçoit que, comme partout ailleurs en Europe, les villes ont continué à voter travailliste, alors que tout le reste a voté conservateur. Mais surtout, on est frappé aussi d'une chose, c'est que partout en Écosse, au Pays de Galles, les travaillistes ont été remplacés par les indépendantistes. Vous n'avez plus un député travailliste en Écosse, c'est absolument fou. Ils ont été laminés. Pourquoi ? Parce que justement, là où j'ai la raison, c'est que sur cet agenda imposé qu'était le Brexit, eh bien, les indépendantistes écossais sont apparus comme ceux qui étaient le plus farouchement opposés à la politique de Boris Johnson. Mais derrière, il y a la question aussi de la façon dont on perçoit la société britannique dans son ensemble et la constitution du Royaume-Uni. Et là, ça va devenir extrêmement explosif.
Juste un mot avant de passer au sujet suivant. Le Brexit, qui est donc prévu pour le 31 janvier 2020, c'est dans pas très longtemps, c'est un peu plus d'un mois. Gilles, est-ce que maintenant on peut dire il aura donc enfin lieu au 31 janvier ?
Alors, quoi qu'on pense du résultat, cette élection a au moins ce mérite, c'est que l'incertitude dans laquelle les Britanniques et les Européens sont depuis maintenant plusieurs années, cette incertitude-là est levée. Donc le 31 janvier, l'accord sera voté. Il faut quand même préciser deux choses. Ça veut dire qu'une période de transition s'ouvre et qu'il y a donc une nouvelle négociation européenne pour savoir quel sera le statut final du Royaume-Uni. Et un deuxième élément que Natacha a évoqué d'un mot qui est très important, c'est qu'il y a une division britannique qui est extrêmement forte. En Écosse, 48 sièges sur 59 pour le parti indépendantiste. En Irlande du Nord, les unionistes, pour la première fois, sont minoritaires. Et donc, la question maintenant de l'unité même du Royaume-Uni est une question qui est posée. Et je reviens d'un mot sur ce que disait Natacha sur la sociologie, qui est un élément très important. Oui. L'Écosse, les travaillistes l'avaient déjà perdu, et c'est évidemment dans ce qui était un de leurs bastions un élément qui est très important, parce que structurellement, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour les travaillistes de gagner.
Et les Écossais qui avaient largement voté contre le Brexit.
Évidemment. Ce qu'ils ont perdu et qui est nouveau, ce sont les circonscriptions ouvrières du nord de l'Angleterre, ce qu'on appelait le mur rouge. Et donc là, c'est une question très profonde qui est posée, c'est de savoir pourquoi ils ont perdu. Je crois que l'ambiguïté a coûté. Ce sont des électeurs qui étaient plutôt des électeurs favorables au Brexit et qui, l'erreur stratégique de Jeremy Corbyn a été de maintenir cette ambiguïté, espérant gagner ceux qui étaient contre, sans perdre ceux qui étaient pour. Il a perdu des deux côtés. Et dernier point, je termine par là, l'ambiguïté a coûté et la radicalité n'a pas payé. Il a voulu faire un programme qui était un programme très, très à gauche, qui était un programme qui s'apparentait plus aux 110 propositions de François Mitterrand de 1981 dans un pays et dans un moment qui sont différents, et ça n'a pas payé.
Là où je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense que le problème, c'était l'ambiguïté entre ce programme très très à gauche et le fait d'éventuellement rester dans l'Union européenne. Or, beaucoup d'électeurs britanniques, notamment de cette ceinture du Nord, considèrent que ça n'est pas compatible. Et c'est ce qui fracture la gauche partout en Europe. Cette question de la compatibilité entre le système de libre circulation des capitaux, des marchandises dans l'Union européenne et la question de la possibilité de faire un programme véritablement de gauche.
À ceci près,
la réponse d'un homme de gauche
à ceci près
de la social-démocratie.
À ceci près
oui,
que Jeremy...
de social-démocratie. C'est pas la différence entre nous, c'est pas la gauche, c'est la question de la social-démocratie.
À ceci près que Jeremy Corbyn n'a pas dit qu'il était pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est cette ambiguïté-là.
Voilà,
et quand on est clair, y compris quand on est sur une ligne, pour le coup, beaucoup plus à droite, type Tony Blair, trois fois a gagné les élections dans ces circonscriptions-là.
Oui, mais parce que lui, il est logique, Tony Blair. Il est néolibéral. Il a été un des fers de lance de cette politique-là et du ralliement de la deuxième gauche au néolibéralisme, notamment dans sa forme européenne.
Oui, mais ses électeurs ouvriers, ses électeurs populaires l'ont quand même suivi.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Votre amendement fixe une date d'arrêt de mise sur le marché du plastique jetable en 2040. Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde.
Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Le rire que vous entendez, c'est celui de Natacha Polony. Objectif 2040, donc, pour l'interdiction des plastiques à usage unique. L'Assemblée nationale a voté lundi dernier cette mesure dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire. 2040, ça vous fait rire, Natacha?
On se hâte lentement. Faut pas non plus exagérer. C'est pour ça que c'est le terme historique qui fait quand même rigoler. Qu'il faille permettre à des entreprises de se reconvertir, de mettre en place des politiques, c'est une évidence. On ne fait pas comme ça d'un coup. La radicalité, ça ne mène à rien qu'à créer des fractures. Donc, il faut évidemment qu'une politique soit pensée et qu'il y ait un accompagnement. Enfin, ça va, 2040, avec en plus l'idée qu'on rediscutera tous les 5 ans, mais il n'y a aucun objectif fixé. Justement, les termes de la discussion ne sont pas mis en avant pour l'instant. Ça reste quand même d'une lenteur absolument effarante. C'est surtout que ce qui
frappe... Une lenteur par rapport à quoi?
Par rapport à l'urgence climatique. Enfin, la question des plastiques, c'est une question majeure. Vous savez que McDonald's produit 1 kilo de déchets par seconde dans ses restaurants, 1 kilo de déchets d'emballage par seconde, alors même que la moitié des repas sont pris sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, produire du plastique qui pollue coûte moins cher que de payer quelqu'un pour ramasser les couverts et les nettoyer. C'est toute cette logique-là qu'il faut remettre en cause, et je suis quand même frappée par la rapidité de ce gouvernement quand il faut agir sur les retraites, alors que là, sur le plastique, bon, 2040, ça va, on va prendre le temps.
Gilles.
Oui, Natacha, je partage ce que dit Natacha sur le fait que c'est un sujet qui est extrêmement emblématique, le plastique. C'est un matériau dont la production est de plus en plus, et la consommation est de plus en plus importante. On consommait en moyenne, en 1974, 2 kilos de plastique par habitant. On est aujourd'hui à 43 kilos. Donc c'est absolument considérable, alors même que on sait que ça se dégrade très lentement, parfois même plusieurs siècles, que ça pollue beaucoup, notamment les océans, qu'il y a un lobby extrêmement puissant en faveur du plastique, et donc c'est un sujet qui est très emblématique. Cette loi, c'est
et
pour
que
ça
c'est
que
pas facile de se désintoxiquer du plastique non plus.
Absolument, absolument, et c'est pour ça que évidemment il faut qu'il y ait des transitions. Il n'en demeure pas moins que je crois que cette loi, elle est largement inutile. D'abord parce que c'est le prototype d'une loi qui est à la fois bavarde et lointaine. Elle est bavarde parce que elle ne fixe qu'un objectif, mais il n'y a aucune mesure concrète, et elle est lointaine parce que 2040, c'est exactement la même date que l'interdiction des véhicules à moteur thermique. On voit, on mesure ce qu'est l'interdiction, le saut de l'interdiction des véhicules à moteur thermique.
Oui.
Pour le plastique, on aurait sans doute pu aller plus vite, et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va plus vite. Il y a eu des avancées européennes et des avancées françaises toutes ces dernières années qui font que l'année prochaine, par exemple, on le sait, les cotons-tiges, les pailles, les touillettes à café,
les pics-aztèques. Vous oubliez les pics-aztèques. J'ai découvert l'existence des pics-aztèques en étudiant cette loi.
Les pics-aztèques, c'est quand vous faites une fondue, et bien pour pouvoir piquer votre steak, vous le prenez avec
le plastique ne fond pas justement
après la cuisson.
Pardon pour mon ignorance.
C'est pas dans la cuisson, Ali.
Mais en l'occurrence, Natacha Polony, quand vous écoutez Brune Poirson vous dire que la France est en pointe sur le sujet et que c'est une question qui est extrêmement complexe parce que cette transition ne se fera pas du jour au lendemain entre... on passerait d'un monde à un autre monde et que donc il faut du temps. Vous trouvez que c'est un manque d'ambition malgré tout ?
C'est ce que je disais en préambule, bien sûr qu'il faut du temps, mais il y a un juste milieu à trouver, et là où je rejoins Gilles sur ce point, c'est que c'est une question de, comment dire, de message que l'on envoie. Il y a des éléments que l'on peut mettre en place immédiatement. Par exemple, en effet, les interdictions, d'ailleurs, ça va être repoussé vraisemblablement d'un an, l'interdiction des pailles et des picastèques, donc de 2020 à 2021. Or, là aussi, on ne voit pas que ce soit particulièrement indispensable pour la vie des gens. Donc, voilà. Mais il va y avoir des messages à faire passer petit à petit, et surtout cette prise de conscience à chaque fois que nous utilisons un morceau de plastique. Le problème, c'est un problème aussi législatif, c'est-à-dire qu'il faut nommer chaque type de plastique et d'emballage pour être sûr que la loi intègre tout. De fait, c'est compliqué, mais un peu d'ambition, un peu surtout de précision et de volonté face à des lobbies, ça serait quand même vraiment indispensable.
Vous parlez comme Greta Thunberg, Gilles.
Ça, c'est une comparaison qui va ravir, sans accuser
les vieux ou qui que ce soit d'autre. Hein. C'est la grande différence.
Deux phrases.
D'un mot avant de passer au débat.
Oui, deux phrases. Première phrase, le sujet est beaucoup la capacité de mise en œuvre et donc de soutenir les entreprises qui innovent et notamment qui innovent dans la chimie du végétal et surtout de réussir à monter des projets de taille suffisante parce qu'on est sur un vrai changement de modèle et il faut que ça suive. Et donc, il suffit pas d'aller dans le bon sens, il faut y aller à la bonne vitesse.
Avec de l'investissement.
Deuxième mot, ça masque ce débat, on s'est polarisé beaucoup sur cette question-là, ça masque d'autres éléments qui sont des éléments positifs de cette loi. C'est la première fois qu'il y a une loi sur l'économie circulaire, et hier soir a été adoptée une mesure qui met à la disposition obligatoire les invendus, après les invendus alimentaires de la loi Garot sous le quinquennat précédent, c'est l'ensemble des biens, y compris sur Internet, qui sont mis à disposition obligatoire des invendus, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est positif.
Oui. Donc vos enfants auront des cadeaux, des jouets en bois pour Noël, si je comprends bien.
Vous rigolez, mais j'ai acheté, il y a une très belle entreprise française qui fait des jeux en bois de hêtre, qui est dans le Jura, et qui fait des choses formidables, des jeux de construction où on peut emboîter, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Eh ben écoutez, les enfants, vous voici prévenus, merci à tous les deux. On va maintenant passer dans le grand face-à-face au débat midi 20 sur France Inter. Rendez-vous tout de suite avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyau.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus.
La CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
C'était mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait donc l'architecture de la réforme des retraites et le soir même, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, rejoignait la mobilisation contre cette réforme, une rupture entre l'exécutif et le premier syndicat de France autour donc de la question de l'âge de 64 ans, de l'âge pivot, de l'âge légal, de l'âge d'équilibre. 64 ans, ok boomer, t'es né avant ou après 75, je le disais tout à l'heure, ce sont maintenant des expressions qu'on entend assez régulièrement, mais que dit cette réforme des retraites à venir, des âges de la vie, de la philosophie des âges de la vie, de la solidarité entre les différentes générations. Bonjour Pierre-Henri Tavoyau.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Sorbonne Paris 4, président du collège de philosophie, et vous êtes notamment l'un des philosophes qui s'est le plus intéressé à la philosophie des âges de la vie. Vous avez consacré un livre sur ce sujet avec ce paradoxe qui était en toile de fond de votre essai, qui était qu'au moment où s'allonge l'espérance de vie, au moment où l'on a le plus de chances de vivre la totalité des âges de l'enfance jusqu'à la vieillesse, eh bien justement la manière de concevoir le sens de ces différents âges nous fait défaut. Paradoxalement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'en remettant la question de l'âge, de ce conflit entre les générations ou de cette différence entre différentes générations, on est en train de perdre le sens des âges de la vie ?
Je pense que c'est un symptôme. Le débat sur les retraites est un des nombreux symptômes du fait qu'effectivement les âges ne sont moins clairs qu'auparavant. Dans les sociétés traditionnelles, les choses étaient très, très, très évidentes. C'est-à-dire qu'il y avait des rites de passage et c'était la collectivité qui prenait en quelque sorte en main le destin de chaque individu du berceau à la tombe. À l'âge de l'individualisme, on a le sentiment qu'il faut être soi-même à tout âge et d'une certaine façon avoir à tout âge tous les âges en bien. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'innocence imaginative de l'enfant, la vitalité révoltée de l'adolescent, le responsabilité de l'adulte et la sérénité du vieillard,
oui.
Avec comme repoussoir aussi tout ce que ces âges peuvent avoir de détestable également. Donc effectivement, il y a un brouillage des âges et il se lie particulièrement, je crois, sur la question de, pas simplement de la vieillesse, mais aussi sur la jeunesse, parce qu'on dit souvent qu'on a gagné de l'espérance de vie à la fin, mais en vérité, pas du tout. On en a gagné sur les deux âges qui sont les âges qui ont les plus augmenté, c'est-à-dire la jeunesse, on sort de l'enfance de plus en plus tôt, on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, certains disent jamais d'ailleurs,
oui.
Et puis par ailleurs, le deuxième âge qui augmente effectivement, c'est l'âge de la vieillesse qui s'est pluralisé et qui s'est varié de façon considérable.
D'un mot avant d'ouvrir le débat et de donner la parole à Natacha, comment comprenez-vous que ce soit sur cette question, justement, celle de l'âge, de cet âge symbolique de 64 ans en l'occurrence, que se joue aujourd'hui la division principale, non seulement dans l'opinion, mais aussi dans le rapport de force entre le gouvernement et les partenaires sociaux?
Je vais vous faire un aveu, je ne comprends pas. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est qu'on a un départ à la retraite moyen en France de 63,4 ans. Voilà, les Français partent à la retraite aujourd'hui à 63,4 ans. Donc honnêtement, je trouve que ce débat sur les 64 ans de départ à la retraite me laisse littéralement pantois. C'est une déconnexion à l'égard du réel. Plus fondamentalement, je pense que il y a quelque chose dans la vie, dans la retraite qui a changé. Elle a été inventée au départ comme pour être un court temps de repos après un long temps de labeur. C'est comme ça que Bismarck l'avait inventée. D'ailleurs, on lui faisait la blague très souvent et on lui disait qu'il avait inventé la retraite pour les morts. C'est-à-dire que l'espérance de vie était plus faible que l'âge de la retraite, donc plus haute que l'âge de la retraite. Et donc, du coup, ça ne profitait à personne. Aujourd'hui, la retraite a totalement changé de sens. C'est devenu un long temps de quelque chose d'autre. Après, je le signale, un temps de labeur de plus en plus court.
Qu'est-ce que ce quelque chose d'autre, justement, puisque c'est effectivement une question. Est-ce que c'est un temps de loisir ou est-ce que c'est un temps de récupération ? Natacha Polony.
Alors, une petite parenthèse avant de revenir sur cette question de la réforme des retraites. Avez-vous vu qu'il y a eu un rapport il y a quelques jours d'une députée de La République En Marche qui s'appelle Audrey Dufeu-Schubert sur la question de l'âgisme ? Alors l'âgisme, c'est quoi ? C'est la discrimination, la mauvaise image que l'on donne aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait, le jeunisme, c'est quand on trouve les jeunes formidables, et l'âgisme, c'est quand on trouve les vieux pas bien. Et du coup, elle propose des trucs extraordinaires pour lutter contre ça. Par exemple, des Grey Games. C'est-à-dire des Jeux Olympiques pour les vieux. C'est-à-dire, vous imaginez la conception que ces gens-là peuvent avoir de la vieillesse, si la seule façon d'améliorer l'image de la vieillesse, c'est d'imaginer des Jeux Olympiques, c'est-à-dire des pratiques sportives qui vont montrer que quand on est vieux, on est jeune.
C'est-à-dire
l'idée que la vieillesse n'est absolument pas cet âge de la sérénité, de la sagesse qui a à nous apporter, qui peut transmettre. Non, il faut être jeune quand on est vieux. Donc ça nous raconte exactement l'aberration de cette société. Derrière, sur la question de la retraite, de l'âge de la retraite, cette question de l'âge pivot, je pense d'abord que cette question de l'âge pivot, elle était symbolique. Elle est considérée comme symbolique par la CFDT parce que Emmanuel Macron s'était tout simplement engagé à faire une réforme structurelle et pas paramétrique, et que du coup, il trahit sa promesse. C'est aussi simple que ça, et je pense qu'après, tout le monde a conscience que, en effet, on peut ergoter, mais que naturellement, une part des Français sont en train de se rapprocher de cet âge. Donc c'est une question de principe.
Je dirais, est un voyou, puis Gilles Finkelsen, qui n'avait pas
d'accord. Le point est quand même important. Je reviens sur la formulation. Nous vivons la retraite, c'est un temps de quelque chose d'autre par rapport à un temps de travail de plus en plus court. Si on fait le calcul, vraiment un calcul d'agenda de vie, nous travaillons 10% de notre existence. 10% de notre existence. On rentre dans le marché du travail de plus en plus tard, 24 ans pour la France, on vit beaucoup plus longtemps, on en sort plus tôt et on travaille
en tout cas en termes de temps de travail en France, beaucoup moins. Donc dites-moi si c'est concevable d'envisager une retraite de plus de 30 ans pour un temps de travail qui concerne 10%. Donc là, il y a un problème
structurel. Mais votre calcul est étrange, parce que
non,
du
oui,
coup,
10%. Je
le
compte
temps
le
de
sommeil.
L'enfance, on peut pas... Oui, le temps du sommeil, ah, oui. Par exemple...
Non, mais c'est 10% de
il faut
l'existence.
Les compter.
10%
oui.
de l'existence, on compte. C'est un vieux calcul
oui, d'accord.
philosophique.
Oui, d'accord,
hein,
mais c'est un calcul un petit peu...
Non. Alors, extrêmement rigoureux, c'est là,
oui,
pour le coup, c'est philosophique, mais rigoureux.
On peut être très rigoureux et choisir des standards plutôt que d'autres, ce qui change totalement l'interprétation.
Puis Gilles Finkelstein.
Oui, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, si vous voulez, à l'aune des grandes conquêtes sociales et des grandes décisions de politique des âges de la vie, il y a eu deux immenses malentendus. Il y a eu 76, la majorité à 18 ans, au moment où on cessait d'être adulte à 18 ans. Là, il n'y a pas de coup, donc c'est anodin. Et 82, la retraite à 60 ans, c'est-à-dire immense conquête au regard du 19e et du 20e siècle. Immense conquête sociale. Mais contresens absolu au regard du 21e siècle, avec une espérance de vie qui a considérablement démesuré. C'est juste ça qu'il faut noter.
Gilles.
Alors, désaccord avec l'un et avec l'autre pour le plaisir d'alimenter la discussion.
Et pour quelques raisons de fond quand même.
Et principalement pour une raison de fond. Je crois que le point de départ, ce que dit Pierre-Henri Tavoyou est juste, c'est qu'il y a un brouillage des âges de la vie. C'est-à-dire cette séparation entre les âges de la vie qui prévalait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'existe plus et que ces différents âges sont beaucoup plus entremêlés. Mais c'est précisément là où il y a un problème avec cette question de l'âge pivot. Quand on regarde l'évolution, et qui n'est pas une question symbolique, je crois qu'il est vraiment une question de principe. Quand on regarde l'évolution de nos systèmes de protection sociale depuis 10 ans, et c'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup d'autres démocraties européennes. Il y a un certain nombre de choses qui demeurent. La mutualisation face aux risques, notamment sur la santé. La solidarité entre les générations, puisque même avec le nouveau système, on est dans un régime par répartition. Mais il y a un élément qui change beaucoup, c'est que...
Ça, c'est important. C'est-à-dire que le système actuel est fondé sur la solidarité entre les générations.
Absolument.
Ceux qui travaillent aujourd'hui payent la retraite de ceux qui sont à la retraite.
Ah, absolument. Donc ça demeure. Ce qui change... Et c'est vrai sur la retraite, comme c'est vrai sur d'autres choses, c'est qu'on essaye de faire évoluer les systèmes par une meilleure prise en compte de la réalité de chaque individu. Ça a été vrai sur le chômage, avec les droits rechargeables, ça a été vrai sur la formation professionnelle, où chacun peut emporter ses droits en dehors du moment de son statut de salarié, ça a été vrai sur la retraite sous la législature précédente, quand on a pris en compte davantage la durée de cotisation ou la pénibilité. Et le problème de l'âge pivot, c'est précisément qu'il réintroduit une fracture nette entre les générations et qu'il nie la réalité du travail, de la vie de travail de chaque individu. Et c'est ça...
Expliquez-nous pourquoi.
Mais pourquoi ? Parce que selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler, tout le monde sera à 64 ans. Et c'est là où est l'injustice. C'est pour ça que cette question n'est pas seulement une question symbolique. Et quand Pierre-Henri Tavoyau dit... Mais on est à 63,4 ans en moyenne aujourd'hui et on sera
de
à 64
facto.
Ans. Mais bah, pas de facto. Oui, de fait, on y est. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est une moyenne. Oui. Et le problème est que ceux qui auraient pu partir plus tôt ne le pourront plus et que ceux qui, comme moi, auraient dû travailler plus tard pourront partir plus tôt. Et donc, c'est pas une question symbolique, c'est une question de justice au cœur de cette réforme.
T'es né avant 75 ? Je rigole, mais c'est l'une des questions, en tout cas, oui. qui se pose alors, aujourd'hui, en tout cas depuis mercredi dernier.
C'est là où il faut
dernier.
Percevoir la cohérence, la cohérence ou l'incohérence du système. C'est que la décision de faire une retraite à points coûte de l'argent. Et effectivement, le point d'équilibre à 64 ans, c'est ce qui est censé assurer précisément non seulement l'équilibre pour les personnes, mais l'équilibre financier global. Donc cette réforme, est, évidemment, marche sur deux pieds, parce que si vous ne mettez pas ce point d'équilibre, eh bien vous arrivez et c'est là où les choses sont ouvertes encore, en disant aux partenaires sociaux, si vous trouvez une meilleure solution pour atteindre le point d'équilibre financier, eh bien on écoute.
Est-ce qu'il y a un risque de conflit de génération ?
Alors, moi je pense pas. Je pense que les guerres des générations, c'est comme les complots. C'est-à-dire que quand on a une réalité complexe et qu'on ne comprend rien, on va mobiliser ces scénarios qui sont à l'avantage d'être extrêmement simplistes. Il y a les méchants et les gentils. Remarquez sur les guerres des générations...
Enfin, il y a les gagnants et les perdants, en l'occurrence.
Non, justement, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, toutes les générations ont de bonnes raisons de se sentir opprimées par les autres. Les jeunes, parce qu'ils ont du mal à rentrer dans la vie. Les vieux, parce qu'ils sont abandonnés dans des EHPAD. Et les adultes qui y travaillent sont ceux qui font marcher le pays et qui payent pour tout le monde. Donc, si vous voulez, le schéma de la guerre des générations ne me paraît pas très plausible. Et ce qui, en revanche, est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en vérité, quand on regarde de près, Les liens intergénérationnels en France et la solidarité intergénérationnelle en France, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment étayer une politique. C'est quelque chose qui fonctionne bien.
Natacha Polony.
Il y a différents points. D'abord, je rejoins totalement ce que dit Gilles sur la question de la justice sociale. Quand je disais c'est symbolique, c'est dans le sens où, dans ces débats-là, il y a tout de même, de la part d'Emmanuel Macron, un revirement qui, en lui-même, est inacceptable. En janvier 2018 encore, il expliquait qu'il ne voulait qu'une réforme systémique et pas une réforme paramétrique. C'est-à-dire qu'il y a une évidence de reniement. Mais en effet, c'est une question de justice qui est au cœur de cela. Et surtout, je pense que quand on parle de solidarité entre les générations, oui, il faut absolument, et c'est pour ça que le système par répartition permet cette solidarité.
Le système actuel.
Mais bien sûr.
Le système futur.
Oui, le système futur, toujours, puisqu'il reste
par répartition.
C'est toujours un régime par répartition, mais il va, comme d'ailleurs beaucoup de réformes faites par Emmanuel Macron, il va dans le sens d'une individualisation plus grande, qui peut paraître plus juste, sauf justement si on ajoute l'âge pivot, mais qui est aussi l'introduction d'une logique individualiste véritablement croissante, et donc la question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur et l'équilibre. D'autant que, dans ces questions de génération, moi je veux bien que chaque génération considère qu'elle peut être flouée ou que c'est elle qui paye le plus, il y a des réalités. Là, ce sont les retraités qui sont les seuls à être majoritairement pour cette réforme.
Il faut regarder ça très dans le détail.
D'accord, mais en tout cas...
On va y venir à la question de l'opinion.
Nous sommes bien d'accord que... les choix sont, en l'occurrence, des choix assez particuliers en fonction des intérêts qu'on a. Je vous laisse répondre et après, je voudrais revenir sur la question de ces âges de la vie, de ces conflits de génération, parce qu'il y a quand même des chiffres qu'on peut rappeler sur les et surtout qui sont liés à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a un revirement majeur, là aussi, sur les rapports entre générations.
Sur le fait que les promesses puissent changer, je trouve qu'on a une situation... Enfin, voilà. Ça fait partie de la politique. Je trouve que se focaliser sur cet âge pivot, cet âge d'équilibre, me paraît sidérant. Compte tenu de la réalité, c'est juste un point qui me paraît un point très très politique et on fait de la politique, disons, de négociation de bas de gamme ici, alors que c'est quand même des réformes qui sont extrêmement importantes. J'ajoute plus, aussi un autre élément, un autre argument. Je trouve que cette réforme est intéressante parce qu'elle va nous sortir de la logique du grand soir. La retraite, c'est vraiment l'idée qu'à chaque fois on fait une réforme, à chaque fois ça c'est pas suffisant et à chaque fois ça crée des logiques incroyables. Là, l'idée, c'est de dire on va créer un dispositif, une procédure, qui ne sera pas d'ailleurs une procédure seulement étatique, hein, puisque les partenaires sociaux sont extrêmement impliqués dans cette affaire, pour dire voilà...
Enfin, ils sont surtout impliqués contre, pour le moment.
Oui, mais
dans la procédure telle qu'elle est envisagée. Ils sont surtout impliqués quand ils respectent le cadre fixé par le gouvernement, et ce n'est pas vraiment du paritarisme.
Mais du coup, Pierre-Henri Tavoyot, cette question de l'âge pivot, on peut la laisser de côté. En revanche, pour répondre à Natacha Polony sur les âges de la vie, qu'est-ce que ça dit, le fait de penser, puisque la question est au centre du débat public, que chacun soit renvoyé à sa propre vieillesse, que chacun soit obligé, forcé de penser à ce qu'il deviendra plus tard.
Je rappelle une chose, c'est que la Révolution française s'est construite contre les privilèges, contre les statuts de privilégiés. Ça s'appelle l'individualisme, ça. Les droits de l'homme, c'est de l'individualisme.
C'est pour ça que je parlais d'équilibre.
Non, oui, mais justement, aujourd'hui, un des grands enjeux de cette réforme, c'est de dire, voilà, on a le sentiment, à tort ou à raison, il faut regarder dans le détail, qu'il y a des régimes spéciaux qui recomposent des privilèges. Et bien voilà, l'individualisme ici, je l'assume. Individualisme, on l'identifie à l'égoïsme. La grande distinction philosophique, c'est la distinction entre les sociétés holistes, où la communauté vaut plus que la partie que l'individu, et les sociétés individualistes, où l'individu est la valeur suprême. Je suis dans une société individualiste et je m'en félicite.
Gilles Finkelstein.
Je crois que le sujet n'est pas l'individualisme avec cette réforme. Puisque on reste dans un cadre qui est le cadre de la solidarité, nous finançons les retraites de ceux qui sont à la retraite quand on est actif. Donc on reste dans un cadre qui est un cadre de solidarité, et donc l'évolution n'est pas vers l'individualisme, vers l'individuation. C'est-à-dire que c'est la prise en compte de la situation de chaque individu dans un cadre qui est un cadre de solidarité collective. Donc ça, c'est une différence qui est très importante. Après, je reviens sur l'autre point qu'évoquait Pierre-Henri Tavoyot, comment on peut comprendre cette mesure. Il y a la question du coût et de la nécessité pour la responsabilité pour un gouvernement, pour tout gouvernement, de s'assurer de la pérennité d'un système. Et je crois que
parlez bien dans le micro.
On ne peut pas le contester. En revanche, ce qui est frappant, c'est que ça a été relativement peu une préoccupation du gouvernement depuis deux ans, les questions budgétaires. Et qu'en l'espèce, on ne sait pas quel est le bouclage budgétaire de cette réforme. Il y a beaucoup de concessions qui ont été faites, parfois à raison, qui ont un coût. On ne sait pas au final si cette réforme va coûter ou si elle va rapporter. Et donc là, c'est une clarification qui me paraît indispensable.
Mais 1975, donc, malgré tout, moi je reviens à la question des générations puisque c'est le débat du jour. Oui. J'aimerais vous entendre là-dessus avant de laisser Natacha Polony nous rappeler ce qu'elle voulait faire avec ces différents chiffres.
Non, je termine par un dernier point. Parce que comment comprendre, Pierre-Henri Tavoyeux disait, les syndicats font de la politique. Mais je crois qu'une des explications principales de l'arbitrage qui a été fait par le président de la République, parce que je ne crois pas un instant à une divergence au jour d'aujourd'hui, entre le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre a fait un choix qui est un choix cohérent et en continuité avec tout ce qu'il défend depuis le début et qui est en cohérence avec sa culture politique et idéologique. Ce qui est nouveau, c'est que le président de la République ait fait ce choix-là aussi. Et il le fait pour une raison qui, lui, n'est pas sans doute pas culturelle ou idéologique, mais qui est purement politique et purement électorale. Parce que quand on dit guerre des générations, ce qui est très frappant, quand on regarde la sociologie des soutiens, il y a deux catégories qui soutiennent cette réforme. Les seniors, comme toujours quand il y a une réforme des retraites, et la droite, qui sont les deux nouveaux électorats d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, les seniors et la droite.
Natacha Polony. Et c'est d'autant plus frappant qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, s'inscrivait dans une logique qui était radicalement différente. Il avait des prises de position qui rappelaient les réflexions de Louis Chauvel sur les conflits de génération, le fait que la génération des baby-boomers était celle qui avait bénéficié... Je suis en train de le faire. C'est le fait que la génération des baby-boomers a bénéficié d'abord de l'immobilier très peu cher, des carrières longues, des carrières continues, du fait que les taux d'intérêt par rapport à l'inflation était avantageux. Bref, ils ont pu acheter un capital qui fait qu'aujourd'hui, ils détiennent le capital. Ils sont ceux qui, finalement, sont le plus aisés. Les retraités d'aujourd'hui sont beaucoup plus favorisés que ne l'étaient les retraités d'il y a 40 ou 50 ans. Et ils sont plus favorisés que les jeunes, que ceux qui rentrent dans la vie active. Mmh. Donc, tout le discours d'Emmanuel Macron était là-dessus pendant la campagne. Et là, renversement, et je crains hélas que Gilles n'ait raison dans son raisonnement, c'est pour des raisons purement électoralistes.
Pierre-Henri Tavoyeux.
La question de l'injustice intergénérationnelle est une question qu'on y réfléchit extrêmement complexe. La thèse de Chauvel a un avantage en disant voilà, il y a une génération bénie et puis les ronds.
C'est pas le seul à dire.
C'est pas le seul à dire.
Et c'est ce qu'il y a derrière l'expression OK boomer.
Oui, OK boomer. Je pense que c'est vraiment une erreur de lecture. En fait, on le dit voilà, aujourd'hui, par exemple,
sur l'environnement. C'est beaucoup plus compliqué pour un jeune aujourd'hui d'accéder, par exemple, à la propriété ou au logement dans une grande ville de France qu'il y a 50 ou 60 ans.
Ou même à rentrer sur le marché du travail. C'est incontestable. Oui. Il y a effectivement un affaiblissement de la jeunesse pour rentrer avec les perspectives qui sont de toute façon moins bonnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, toutes les générations sont assez largement confrontées aux mêmes problèmes. Quand on dit l'environnement, on dit ouais, les jeunes contre les vieux, mais pas du tout. C'est la totalité des générations, et là les enquêtes le montrent très bien, qui est rentrée dans la préoccupation environnementale en même temps. Le numérique, dont on nous dit c'est une fracture numérique, mais pas du tout. C'est la totalité des générations qui, en même temps, sont rentrées dans le numérique. Donc ce schéma de la guerre des générations est un schéma complètement égarant et, me semble-t-il, politiquement néfaste. Parce que justement, on va avoir une politique de Robin des Bois, prendre à des vieux riches ou à des jeunes actifs ce qu'il faudrait redonner aux autres. Je pense que c'est pas ça la solidarité.
Mais savoir que justement le système va changer selon que l'on est né avant 1975 ou après 1975, ça crée malgré tout des ruptures, ou est-ce que finalement.
Si elles étaient brutales, oui, mais elles sont. C'est l'anticipation des acteurs.
Ce n'est pas ça la question. C'est qu'en effet, on est face à un président qui a tendance à utiliser les uns contre les autres. Et c'est quand même problématique.
Ça
avec
politique.
En plus un renversement. D'accord, c'est l'art politique. Mais vous venez de dire à l'instant qu'il devait y avoir une solidarité. Et je crois aussi qu'il y a une solidarité au sein d'une société et qu'il est plus nécessaire que jamais de la construire. Or, justement, là, on est, pour des raisons électorales, dans une façon de créer des ruptures, dans une façon de préserver les uns et pas les autres, qui me gêne profondément parce que derrière, la question n'est jamais prise de façon globale. Il me semble que le problème est en fait beaucoup
plus
vaste.
De manière globale.
Non, je pense que la question doit être prise de façon plus vaste que la simple question des retraites, que ça nécessite de réfléchir en effet à l'âge d'entrée sur le marché du travail, donc à la conception que l'on a de ce que c'est, de ce que sont des études supérieures. Il y a tout ce travail-là à remettre en place. Il y a ensuite la question de savoir comment on recrée de l'emploi, des industries, parce que c'est comme ça qu'on rééquilibre le système et c'est pas en appauvrissant les futurs retraités. Donc je pense que je vous renvoie à un texte formidable que vous retrouverez sur le net ou surtout dans les œuvres complète de Cornelius Castoriadis, où il expliquait pourquoi lui n'avait pas signé en 95 ni le texte pour le plan Juppé, ni le texte de Bourdieu contre le plan Juppé. Donc ni Rosanvallon ni Bourdieu. Parce qu'il expliquait que de toute façon le problème était au-delà, et qu'à partir du moment où on organise la concurrence mondiale avec des dérégulations, eh bien on se retrouve dans une situation où on monte les uns contre les autres.
Il ne faut pas qu'on pense que individualisme et solidarité sont incompatibles. Dans nos sociétés, contrairement aux sociétés traditionnelles où effectivement les solidarités étaient mécaniques, on fonctionnait par des groupes sociaux qui s'opposaient. Les solidarités sont individuelles. C'est si on est solidaire de manière intergénérationnelle avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec les générations futures, qui est le point le plus enchanté de la solidarité aujourd'hui. Penser à l'avenir, c'est pas penser simplement à l'avenir abstrait, c'est penser à nos enfants et aux conflits qu'on leur lègue. Et je pense que cette question des retraites, c'est justement, si on ne la réforme pas, un conflit qu'on laissera à nos enfants, et l'accumulation, on leur pourrira l'avenir. Donc d'une certaine manière, il est important de le trancher.
À eux qui ne sont pas encore nés, mais c'est assez intéressant d'ailleurs de voir, Gilles, qu'il y a des expressions qui sont arrivées dans le débat public. On a tous découvert ce qui était par exemple la clause du grand-père. Il y a donc la question de ce qu'on appelle l'âge légal ou l'âge pivot ou l'âge d'équilibre. On ne va pas rentrer dans les subtilités de ces différents types de manière de concevoir l'âge de départ à la retraite. J'aimerais juste qu'on revienne sur la question de l'opinion, puisque c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, Pierre-Henri Tavoyau. Quand on voit aujourd'hui, d'un côté, ceux qui se mobilisent se revendiquer d'un très fort soutien de l'opinion contre la réforme des retraites telle qu'elle est imaginée par le gouvernement, et de l'autre, un gouvernement qui dit « Nous avons été élus, notamment Emmanuel Macron, avec un programme qui contenait cette réforme », comment est-ce qu'on règle ce conflit de légitimité ?
C'est le tragique de la politique. Sur des grandes réformes de ce type-là, j'allais dire, il n'y a pas de bonne solution. C'est l'idée, effectivement, la position qui a été adoptée par Édouard Philippe, c'est de dire je vais être ferme tout en restant ouvert sur des éléments de négociation. Parce que c'est
ferme,
ça,
mais pas fermé, c'était son expression.
Ferme, mais pas fermé. Avec cet argument ultime qui consiste à dire que si on rate cette réforme, il n'y aura plus de réforme. Voilà. Non, mais c'est ça l'argument, c'est de dire la France sera irréformable.
Si l'argument est de dire nous avons été élus sur cette réforme, il est faux, puisque justement...
Enfin, elle était contenue dans son programme.
Non, justement. Alors, il a cessé de dire qu'il ne voulait pas de réforme paramétrique, mais juste une réforme systémique.
Gilles Finkelstein.
Oui, deux éléments. D'abord, sur la question générale, ce qui est frappant, c'est que la force propulsive d'une élection n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'elle est plus courte, elle est plus faible, et l'idée qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, il y a 20 ans, on est élu sur 110 propositions et on a un mandat pendant 5 ans pour appliquer ces 110 propositions, aujourd'hui c'est une illusion.
Enfin, il y a 40 ans.
Oui, il y a 40 ans.
Et ça fait longtemps que c'est plus le cas.
Ça fait longtemps et ça l'est de moins en moins, et donc tout le défi des démocraties, quand on est y compris dans un cadre de démocratie représentative, c'est de savoir comment on associe les citoyens, les corps intermédiaires au fur et à mesure du quinquennat. Et puis il y a une deuxième réponse qui est une réponse non pas en généralité, mais qui est une réponse par rapport à ce qu'a été l'élection présidentielle de 2017. Plus que les autres, elle s'est faite sur la politique, sur la rupture politique et pas sur les politiques publiques. D'ailleurs, quand elle s'est faite sur les politiques publiques, elle s'est faite, s'agissant d'Emmanuel Macron, beaucoup plus sur les orientations, sur la philosophie, sur le projet, plus que sur un programme. Il a rechigné pendant longtemps, à raison d'ailleurs, à avoir un programme très détaillé, tout simplement parce que la réalité peut changer. Et donc, sur le sujet précis de la retraite, ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était l'idée, la philosophie, 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, c'est-à-dire le régime universel par points. En revanche, il n'y avait pas, et il s'est même engagé au contraire, à ce qu'il y ait une évolution de l'âge. Et donc là, il y a un conflit, mais peut-être que c'est parce que la réalité a changé, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il n'avait pas ce mandat-là au terme de son élection.
Non, il y a aussi un élément supplémentaire, c'est que c'est la revanche des syndicats sur les gilets jaunes. Et ça, c'est un élément très important dans justement
la structure. Ce que nous vivons aujourd'hui.
Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans la structuration du débat public, c'est que évidemment la phase gilets jaunes était vraiment la protestation directe, l'émotion au sens de l'ancien régime. Là, c'est la
revanche. Vous aviez vivement critiqué, notamment les demandes de certains gilets jaunes, par exemple, d'installer une démocratie directe, un référendum, oui, d'initiative citoyenne, les propositions d'Étienne Chouard pour.
Oui, mais en pensant que c'était pas forcément la réalité du mouvement des gilets jaunes. Je pense que le mouvement des gilets jaunes est une bonne nouvelle parce que ça effectivement exprime le fait qu'il y avait une partie de la France, celle périphérique, ni riche ni pauvre, qui n'avait pas du tout voix au chapitre et qui s'est exprimée. Je pense de ce point de vue-là, les gilets jaunes ont gagné. Voilà, on les écoute et on est attentif. Les politiques sont tétanisés sur ces questions-là et c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, c'est la revanche des syndicats, c'est-à-dire la revanche de corps intermédiaires. Et d'une certaine façon, il y a une fatalité à ce que nous vivons en ce moment. Quelle que soit la réforme, si je puis dire, il fallait que les syndicats reprennent la main. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est de la politique, mais je suis pas contre la politique, j'adore ça. La politique, on est dans une logique de rapport de force traditionnel en disant, voilà, après la phase des gilets jaunes, on reprend la discussion paritaire habituelle.
Alors, j'ai pas du tout la même interprétation, tout simplement parce que le discours d'Édouard Philippe ces derniers jours a justement été celui d'une gifle magistrale dans la figure de la CFDT, qui est le premier syndicat de France. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il a été dit qu'on n'avait pas besoin des corps intermédiaires et qu'on pouvait les humilier. Mais surtout, je pense que...
Ce ne sont pas les mots qu'il a employés.
Surtout, je pense que les gilets jaunes, comme ce conflit, sont en fait deux façons différentes de ressentir de la part d'une part de l'opinion, de la part d'une partie du pays, des citoyens, de ressentir le fait qu'ils sont prisonniers d'un système qui est totalement bloqué, qui est en train de les appauvrir, qui est en train d'uniformiser l'ensemble des protections sociales. Non, j'ai pas une vision noire, j'ai une vision qui constate que sur l'ensemble des pays développés, on est en train de détruire petit à petit les systèmes de protection conquis au cours du XXe siècle, qu'on le fait à différents degrés, mais qu'à terme, c'est une uniformisation dans un système qui n'enrichit que les très très riches.
Des accords frontales, je pense que ça fait partie, ces conflits font partie de la respiration normale des démocraties. Il ne faut pas y voir une chose plutôt noire.
Ce que nous vivons en ce moment.
Les gilets jaunes.
Mais je ne vois pas du tout quelque chose de noir.
Les gilets jaunes permettaient d'incorporer, comme ça a toujours été le cas dans les démocraties, toute une partie de la population et ça fait partie du débat normal.
Contraire de ce que j'ai dit. Non, j'estime que ce mouvement était parfaitement légitime et non, je pense qu'il n'a pas été écouté démocratiquement.
Vous y voyez le symptôme de la déliquescence politique de notre pays.
J'y vois le symptôme du réveil des citoyens qui exigent leurs droits et leur souveraineté.
Revenons à la question des retraites, Pierre-Henri Tavoyot. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui si vous analysez ce conflit que vous considérez comme traditionnel, comme au fond étant de bonne guerre, pour employer une métaphore un peu facile, entre partenaires sociaux d'un côté, exécutifs de l'autre. Mais pourtant, on a l'impression que c'est une bataille qui se joue aujourd'hui sur le plan de l'opinion.
Oui, tout à fait.
Il n'est plus question de démocratie représentative, de démocratie sociale, de corps intermédiaires, mais qu'au fond, ça se joue sur le plan des sondages.
Oui, c'est un vieux problème maintenant, c'est qu'on a un espace public qui est un espace public qui est devenu extrêmement problématique pour la population d'abord, les choses sont très incertaines, et aussi pour le gouvernement, et qu'il y ait aujourd'hui dans un espace public, notamment traversé par Internet, extrêmement difficile
de gouverner. Mais qu'est-ce que ça révèle pour vous ? C'est une impuissance du politique, ça dit quelque chose d'une crise de la représentation ?
Non, pas du tout. Pas une crise de la représentation, c'est l'idée qu'il faut que nous, citoyens, prenons conscience que l'art politique n'a jamais été aussi difficile aujourd'hui. Nous sommes extrêmement difficiles à être gouvernés aujourd'hui. Et c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est très très difficile. Je veux dire, quand on peut dire que les politiques sont nuls, sont des salauds, sont des pourris, etc. Mais mettons-nous deux minutes à leur place, c'est juste impossible. Voilà, et c'est ça que je veux dire. Et c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est en effet quelque chose qui, sur le plan de l'avenir de la démocratie, peut être périlleux.
Gilles Finkelstein.
Oui. Le fait qu'il y ait des...
La bataille d'opinion.
Oui, le fait qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des clivages dans une démocratie, c'est l'essence même de la démocratie et ça se déroule par nature entre les élections. Donc là, il y a rien de dramatique. Est-ce qu'on peut réduire ce qui se passe à la revanche des syndicats ? Là, je pense que ça serait une erreur. Les syndicats, de fait, ont été maltraités depuis le début de ce quinquennat et notamment au début de ce quinquennat. Le paradoxe, c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel les partenaires sociaux ont été associés, c'est la réforme des retraites, puisque ça fait maintenant deux ans que les discussions sont ouvertes. Mais tel le scorpion de la parabole, après un certain nombre de clarifications dans le discours, après un certain nombre de concessions, eh bien, il y a la provocation finale. Ils n'ont pas pu s'empêcher. Il y a donc cette rupture, y compris avec les syndicats
réformistes.
Pourquoi
la provocation finale
sur la question de l'âge niveau, dont chacun savait que c'était le point de rupture. Voilà, donc je crois qu'on en est là.
Pierre-Henri Tavoyau, et j'aimerais ensuite poser la question au prof de manière très simple. Est-ce que ce dont souffre aujourd'hui le gouvernement, c'est comme le disent certains commentateurs, pour reprendre l'expression de Natacha, est-ce que c'est un problème de clarté, de pédagogie de la réforme ?
Là aussi, je pense qu'il faut vraiment... Alors là, c'est le prof qui parle. Vous imaginez que vous avez un amphi avec une gauche, une droite, avec toute une série de parasitages d'informations qui arrivent en même temps que vous êtes en train de parler dans l'amphi. Enfin, je veux dire, là, on est dans une situation où, effectivement, c'est la mission
l'exercice
impossible.
L'exercice est impossible.
L'exercice, me semble-t-il, est devenu totalement impossible. Après, je pense qu'il y a des moyens d'y parvenir, mais on dit c'est pas... Alors, la réforme est très bonne, c'est ce qu'on entend en général, mais c'est un problème de communication. Ça me semble sidérant, si la réforme est très bonne, on est assez bon pour le comprendre, et si elle est très mauvaise, on est assez bon pour aussi.
En effet, cette question de la pédagogie est absolument effarante. Les citoyens ne sont pas complètement idiots, ils ont compris ce qui était à l'œuvre. Après, qu'on soit d'accord avec les réactions des uns et des autres, c'est autre chose, mais ça s'appelle justement du débat démocratique, et le débat démocratique, c'est du conflit civilisé. Le problème, c'est qu'encore faut-il avoir conscience que c'est pas tant que c'est difficile pour des gouvernants aujourd'hui, que c'est plus compliqué, non. C'est simplement qu'il y a... Il y a petit à petit une démocratie qui a été vidée de sa substance par une forme d'oligarchie, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une oligarchie qui se reconstitue, qui essaye de perpétuer une politique en dehors de tout choix démocratique. Et c'est ce qu'on voit notamment avec la pression de l'inspection des finances, avec ces liens entre le privé et le public sur des problèmes qui sont des problèmes qui petit à petit échappent au bien commun et à la délibération collective.
Là où je suis, c'est qu'effectivement, il y a une tentation du politique de ne pas faire son boulot et de laisser la main à ce que j'appellerais, moi, le pilotage automatique de la cité. Pilotage automatique qui serait administratif, on va sur les questions migratoires. Pilotage automatique qui serait de l'ordre, effectivement, du gouvernement de l'expertise. Puissance financière, oui, je suis d'accord. Mais ayons conscience aussi que reprendre la main, comme on dirait, parce que c'est vrai que c'est le grand défi des démocraties d'aujourd'hui, c'est ce sentiment de dépossession démocratique. Nous semblons ne pas avoir la maîtrise de notre destin, alors que c'est la promesse de la démocratie. Avec la mondialisation, avec la complexification des règles, c'est cette reprise en main qui est effectivement extrêmement délicate, et c'est là où les politiques doivent effectivement faire leur boulot. Je partage effectivement cette analyse.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois qu'au-delà de la dépossession que vous venez d'évoquer, je crois qu'il y a une forme de désarroi et qui va bien au-delà de la question des retraites face à l'ampleur des mutations à la fois climatiques, numériques, démographiques auxquelles nous sommes les contemporains. Il y avait un article de Michael Fossel hier dans Libération qui disait...
Le philosophe Michael Fossel.
L'enjeu, c'est pour tout le monde, et l'angoisse, c'est d'avoir une vie avant la mort. Je crois que c'est un peu ça aussi qui est en jeu. Mais l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est cette question de la clarté et de la pédagogie. Peut-être, au risque de vous surprendre, je trouve qu'on a un bon débat avec une bonne qualité de débat sur cette question des retraites. Et qu'on voit une opinion qui est en formation, au sens qui chacun se plonge dans un dossier dans lequel il avait des connaissances qui étaient plus ou moins précises. Je vous prends deux exemples sur la question de la décote, puisqu'on dit s'il y a un âge pivot, eh bien quand on est en dessous de, quand on part avant l'âge pivot, il y a une décote. Eh bien, beaucoup ont découvert, je dois dire moi le premier, que cette décote n'est pas jusqu'à ce que vous ayez atteint l'âge pivot, mais qu'elle est jusqu'à la fin de votre retraite. Sur la valeur du point, une des avancées du discours d'Édouard Philippe était que le point va être indexé non pas sur l'inflation, mais sur les salaires. Donc ça, c'est le point, mais ça vaut pour la valeur du point, ça vaut pas pour la valeur de votre retraite qui continue d'évoluer en fonction de l'inflation. Donc chacun progresse dans ses connaissances, et je trouve qu'on a, pour une fois, une qualité de débat qui fait que l'opinion, les questions que les sondages pouvaient poser il y a 6 mois ou il y a 2 ans sur un principe général, et qu'on a une opinion qui se forme et maintenant et confrontée à des réalités.
C'est un trait français, on a besoin de dramatisation pour avoir l'information. C'est vraiment, il faut s'engueuler, si je puis dire, pour le dire brutalement, pour qu'on se mette au courant des sujets. Et si on ne s'engueule pas, on ne se tient pas au courant.
Voilà. Malgré tout, il y a une compréhension de cette réforme. Lorsqu'on a écouté Édouard Philippe et derrière toutes les réactions de l'ensemble des syndicats pour le coup, c'est de manière quasi unanime et indépendamment des mesures spécifiques et notamment celles autour de l'âge et de ses 64 ans, c'est l'idée qu'on va perdre encore un peu plus sa vie à vouloir la gagner. C'était notamment l'une des analyses de Michael Fessel que citait Gilles dans Libé hier.
Parce qu'en fait, le
perdre sa vie à vouloir la gagner, ça résume quand même assez bien les choses.
C'est une formule classique, mais avant la retraite et sur la retraite, c'est en vérité le travail qui est en jeu. C'est ça la vraie question. La question, c'est le travail. On le voit très bien par rapport, par exemple, pour les profs. Les profs, c'est évident. C'est effectivement ce sentiment d'être un peu négligé. Bon, au moins, ils avaient la perspective de partir plus tôt parce que le travail était surtout dans la durée un peu compliqué. Et donc c'est vraiment l'enjeu du travail qui est au jeu. Et donc c'est vrai que cette réforme systémique, le point sur lequel elle est un peu négligente, c'est-à-dire effectivement si on pose cette réforme sur les retraites, on ne peut pas aller faire l'économie d'une réflexion extrêmement approfondie sur la nature du travail, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans la fonction publique ou qu'il soit aussi pour les personnes qui sont en libéral.
D'où la question que posait Michael Fessel, toujours lui, y a-t-il une vie avant la mort? C'est une question que les étudiants avaient posée au philosophe Paul Ricoeur dans les années 70 et qui désignait bien justement cette question,
là,
celle du travail pour le coup, avec la multiplication des petits boulots, des carrières interrompues et de la certitude devant ce qu'on va devenir.
Il ne faut pas non plus exagérer, nous sommes dans une situation française où cette question posée de cette manière en France, quand on la compare à d'autres pays, il faut quand même un tout petit peu de pudeur.
Pardon, c'est pas de la pudeur, c'est tout simplement qu'il y a eu des conquêtes, qui sont des conquêtes sociales, qui justement permettent de ne pas être dans la situation d'autres pays, et il me semble parfaitement normal que des citoyens veulent perpétuer ces conquêtes plutôt que de retomber dans la situation des autres.
Y a-t-il une vie avant la mort? Nous méditerons sur cette question en tout cas. Merci infiniment Pierre-Henri Davoyaux d'avoir été l'invité du Grand Face-à-Face aujourd'hui. Comment gouverner un peuple roi est publié aux éditions Odile Jacob. Et pour aller plus loin, chers auditeurs, je vous indique poursuite. Vous connaissez le podcast de la rédaction de France Inter qui est justement consacré cette semaine à Emmanuel Macron et au syndicat. Natacha et Gilles, merci les amis. Rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Stéphane Boja. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.